L'abbé Bruno Jacobs organise lundi prochain, nous serons le 1er avril, hein, et c'est pas un poisson, un concert en l'honneur de l'abbé Joseph André, un juste parmi les nations qui a sauvé des centaines d'enfants juifs à son domicile à Namur pendant la guerre forcément. Bruno Jacobs nous raconte l'histoire de l'abbé Joseph André.
Bonjour abbé Jacobs.
Oui, bonjour.
Vous organisez un concert ce 1er avril prochain en hommage à l'abbé Joseph André, juste parmi les nations, décédé il y a plus de 50 ans. Tout d'abord, pouvez-vous nous raconter un peu l'histoire de cet abbé, notamment ses activités pendant la guerre qui lui a valu ce titre de juste parmi les nations?
Oui, d'abord merci pour cette invitation. Alors, l'abbé André, c'était un prêtre assez atypique. Il voulait d'abord devenir jésuite, mais il a été renvoyé de chez les jésuites parce que on estimait que sa santé était trop fragile. Et ce qui ne l'a pas empêché plus tard de travailler autant que trois jésuites, selon les paroles d'un professeur jésuite lui-même. Et donc, l'abbé André, au début de la guerre, il était prêtre à Floreffe, au petit séminaire de Floreffe, donc au professeur de secondaire. Et alors, il a été nommé vicaire à la paroisse Saint-Jean-Baptiste à Namur, dans le centre. Et là, très vite, il s'est rendu compte, à partir de 41, de 1941, qu'il y avait des personnes démunies, défavorisées, et entre autres aussi des familles juives qui venaient à Namur pour chercher refuge parce qu'elles étaient persécutées ailleurs. Et lui, il considérait que c'était tout simplement son devoir de prêtre, de vicaire de paroisse, de rendre visite à ces familles. Et puis, petit à petit, il y a eu des demandes de secours, d'aide, disons. De familles qui lui demandaient d'être cachées. C'est comme ça qu'il a commencé à cacher parfois les parents en les aidant à trouver un refuge et puis surtout les enfants. Alors, ce qui est très particulier, c'est qu'il habitait à la place de l'Ange et à 20 mètres de son domicile, il y avait un prestigieux hôtel que les Allemands avaient pris pour installer leur quartier général. Et donc, tous les jours, il voyait défiler devant sa porte des gens de la Gestapo, des soldats allemands, et tous les jours, il devait se réveiller avec cette idée, mais aujourd'hui, je pourrais être pris, être déporté, et puis tout est fini. Mais ça ne l'a pas empêché, avec beaucoup d'ingéniosité d'ailleurs, de cacher les enfants chez lui, les accueillir, et puis il partait avec son vélo à la campagne pour à la fois chercher la nourriture, chercher du jambon, du beurre, du lait dans les fermes, et puis il en profitait alors aussi pour chercher des refuges plus sûrs pour ses enfants. Évidemment, très vite, d'autres enfants arrivaient, donc la maison n'était jamais vide. À certains moments, il y avait plus de 30 enfants dans sa maison, et il arrivait à les cacher et à les faire sortir et entrer, notamment lorsque des enfants devaient sortir. Il les mettait en uniforme du patro, donc il y avait les enfants de la paroisse qui portaient un uniforme de patro. Eh bien, les enfants juifs recevaient alors la même uniforme, et ça fait que pendant 3 ans, les soldats allemands ne se sont doutés de rien. Et ça lui a permis de sauver, alors certaines sources disent plus de 300 enfants, on ne connaît pas le nombre exact, lui-même d'ailleurs n'a jamais compté, il n'a jamais su le nombre exact d'enfants qu'il a sauvés. Après la guerre, il y avait évidemment beaucoup de ces enfants qui avaient perdu leurs parents et qui se retrouvaient tout seuls. Alors il en a hébergé chez lui jusqu'à 18 ans, donc pendant 5-6 ans encore, dans sa maison, et après il a été nommé aumônier de prison. Et donc là, il a, dans une autre maison, une maison beaucoup plus grande, dans un quartier qui s'appelle Bommel, il a continué à héberger des gens, disons, des gens nécessiteux, des immigrés, des Maghrébins aussi. Et ça fait que lorsqu'il est mort en 1973, il est mort d'épuisement à 65 ans parce qu'il avait toujours eu une santé fragile, mais il a énormément travaillé, il dormait très peu d'ailleurs. Son cercueil a été porté par des juifs et des musulmans. Donc, c'est aussi, je pense, un fait qui mérite d'être mentionné, surtout à
Très,
notre
très
époque.
symbolique, en
Voilà.
effet. Et donc, qu'est-ce
Et...
qui vous a poussé à vous emparer de son histoire et à souhaiter commémorer sa mémoire au cours de ce concert aujourd'hui?
Alors, d'abord, moi, je suis prêtre diocésain, et donc il y a eu une demande de l'évêché. L'évêché souhaiterait qu'il soit béatifié, mais lorsque j'ai commencé à étudier un peu les règlements romains, donc la congrégation romaine qui s'occupe de ce genre de dossier, je me suis rendu compte que c'est encore trop tôt parce qu'il est trop peu connu. J'ai parfois l'impression qu'il est mieux connu des Juifs et mieux connu en Israël que finalement chez les catholiques en Belgique. Encore hier soir, je parlais à des gens ici à Namur et l'abbé André, on ne connaît pas. Et je me dis, mais c'est quand même très curieux, quelqu'un qui a reçu la plus haute distinction d'État d'Israël, et ici, chez les catholiques, dans sa propre ville, il n'est même pas connu par la majorité. Donc, moi, je me dis, avant de béatifier quelqu'un et avant comment dire, si on veut suivre les procédures, il faut d'abord qu'il soit connu et que les gens reconnaissent ses vertus. Et en même temps, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, donc l'abbé André, une de ses particularités était aussi que il était très respectueux de la religion juive, de la culture juive. Il a toujours refusé, par exemple, contrairement à d'autres prêtres qui aussi cachaient des enfants juifs, il a toujours refusé de la baptiser parce qu'il estimait que les enfants dans cette situation-là n'étaient pas prêts à faire un choix vraiment réfléchi et bien mûri. Et d'autre part aussi parce qu'il estimait que c'était important que les enfants juifs apprennent leur propre religion, leur propre culture. Et donc, même quand les enfants étaient cachés chez lui, il invitait parfois d'autres prêtres, disons, mieux érudits que lui, pour parler aux enfants de la religion juive, des figures de la Bible juive, des prophètes, etc., parce qu'il estimait que c'était important que ces enfants connaissent leur propre religion. Et donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé au rapprochement entre chrétiens et juifs. Et d'ailleurs, quand il a appris qu'Israël voulait le nommer juste parmi les nations, il a d'abord refusé d'y aller parce que c'est un homme qui ne cherchait pas les honneurs. Il était toujours très discret, très humble, très effacé. Mais alors, on a réussi à le convaincre quand même parce qu'on lui a dit que ça pourrait servir au rapprochement entre juifs et chrétiens. Et la suite s'est laissé convaincre et il est allé en Israël. Et d'ailleurs, il a été réinvité plusieurs fois à la suite et puis aussi par les juifs aux États-Unis. Et je pense qu'à notre époque, c'est aussi une cause qui mérite d'être mise en évidence parce que, bon, comme vous le savez peut-être mieux que moi, que l'antisémitisme dans nos régions est en recrudescence.
Le concert nous propose de redécouvrir l'intégralité du Messie de Handel, joué par le Chœur Royal de Namur et le concert bourgeois. Mais du coup, c'est un choix symbolique pour montrer les racines communes entre le peuple juif et chrétien, finalement.
Et je pense que, ici, évidemment, un concert, ce n'est pas le moment de faire des grands discours ou de débats, mais je pense qu'à travers la belle musique qui est inspirée des textes de la religion juive, d'abord, parce que sur les 53 morceaux qui composent le Messie, si je me trompe, 49 viennent d'auteurs juifs. Il y a juste quelques petits extraits de l'évangile de Saint-Luc, Saint-Luc étant d'origine païenne, hein. Sinon, toutes les paroles du Messie nous viennent des juifs. Et donc, je pense que c'est aussi un beau moyen, à travers non pas des discours et des débats, mais à travers tout simplement la beauté de la musique et la profondeur des textes, de contribuer au rapprochement entre juifs et chrétiens. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'il est très important que des deux côtés, on se mobilise, à la fois du côté des chrétiens et des catholiques, mais aussi de la communauté juive, on se mobilise pour faire un geste commun en disant, voilà, nous nous unissons, nous avons un héritage commun, nous devons nous parler, nous devons nous rencontrer, et nous avons aussi, comment dirais-je, un héritage culturel qui a des racines communes que nous pouvons mettre en évidence pour nous retrouver ensemble.
L'amitié entre juifs et chrétiens a toujours été restée une des préoccupations de l'abbé Joseph André. Où en est cette amitié aujourd'hui en Belgique au lendemain du 7 octobre?
Alors, je constate avec une certaine préoccupation que beaucoup de gens font l'amalgame entre le peuple juif et le gouvernement israélien. Et, bon, évidemment, je pense que chacun va faire son analyse et chacun a le droit de penser de la politique actuellement menée par le gouvernement ce qu'il veut. Donc, moi, je crois que c'est une question tout simplement de liberté d'opinion. Mais je pense qu'il ne faut pas trop vite faire l'amalgame entre ce qui se passe actuellement à Gaza et le peuple juif, comme si c'était tout le peuple juif qui était responsable de cela. Et je pense que c'est une question extrêmement complexe, où d'ailleurs, chez nous, on vit quand même à plusieurs milliers de kilomètres de distance. On ne vit pas ce que les gens vivent là-bas, et on a très difficile pour nous, ici, de vraiment comprendre, l'entendre, d'entrer dans les mentalités, les différences de culture, de religion, etc., et d'histoire. Et donc, je pense que les événements du 7 octobre ont compliqué quelque part, non pas tellement les relations entre l'hiérarchie catholique et l'hiérarchie juive, mais moi j'ai des très bons contacts avec le grand rabbin, et je pense mes confrères aussi. D'ailleurs, après Pâques, je crois que la semaine prochaine, la communauté juive veut honorer l'archevêque actuel et l'archevêque précédent, le cardinal de Kessel, et donc Monseigneur Terlinden, mais à la base, où les gens sont moins bien renseignés, on fait trop souvent des amalgames, on fait trop souvent, on fonctionne trop souvent avec des préjugés. Et je pense qu'ici, c'est simplement le fait de nous retrouver ensemble et d'écouter une belle musique avec des textes profonds, ça permet peut-être de voir les choses autrement.
Alors, une autre de mes questions subsidiaires, c'est comment œuvrez-vous aujourd'hui dans votre paroisse, par exemple, pour célébrer cette amitié?
Alors, je dois préciser que moi, je n'ai pas de paroisse, je ne suis pas curé de paroisse. Donc, l'évêché actuellement me laisse prendre des initiatives pour travailler à cette cause de l'abbé André. Et donc, moi, ce que je fais en tant que prêtre, c'est surtout essayer d'entrer dans la pensée, dans la mentalité de l'abbé André et dire, OK, moi, ce n'est pas la politique, hein, ce n'est pas le débat de ce qui se passe à 4 000 km de chez nous, mais c'est d'œuvrer au quotidien, d'abord de faire connaître un homme, de faire connaître son message. Il n'a pas écrit beaucoup de choses, ce que parfois je regrette un petit peu parce que ça aurait permis de le connaître davantage, mais moi j'essaie surtout de le faire connaître et de dire okay, quel est son message, et de dire, essayer peut-être de voir au fond ce que nos sources communes nous disent sur le vivre ensemble. Et donc c'est aussi un peu le message que je voudrais essayer de faire passer par ce concert, mais je crois que le fait de méditer sur ces paroles, parce que, une petite parenthèse, le Messie, vous le savez bien, donc, a été composé en Angleterre, donc le texte de base, c'est de l'anglais ancien, mais nous allons, pendant le concert, afficher à la fois le texte anglais, le texte original et la traduction française, pour que les gens puissent aussi, pour que les gens aient le temps de méditer sur ces paroles, Isaïe, les psaumes, d'autres prophètes, etc. Et donc, je pense que le fait d'intérioriser ces paroles, ça permettra aux catholiques, peut-être aussi à certains membres de la communauté juive, de mieux intérioriser la parole de Dieu que nous avons en commun.
Et enfin, ma dernière question, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les détails pratiques concernant ce concert, tels que la date, l'heure, le lieu, les modalités de réservation des billets?
Alors, donc la date, c'est le lundi 1er avril à 17 h 30. Et ça se passe donc à Namur, dans une salle de concert qui a été réaménagée il y a quelques années. Il y a une musicienne qui m'a dit qu'au niveau acoustique, c'est la meilleure en Europe. Bon, voilà, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est une musicienne. Et donc, c'est à la rue Roger 82. Mais je comprends que il y a peut-être des personnes qui me disent, ben non, 25 euros, c'est trop pour nous, 28 euros, c'est trop. Moi, j'ai dit, l'argent ne doit jamais être un obstacle. Mais s'il y a des personnes qui ne savent pas payer autant, ben, moi je suis prêt à faire des prix selon les possibilités de chacun. Et donc on peut aussi me contacter directement, mais je pense l'essentiel c'est que nous soyons unis et nous soyons présents un maximum lors de cette belle journée.
Eh bien, ça me paraît être une très belle conclusion. Merci beaucoup, Abbé Jacobs, d'avoir accepté de nous parler de ce concert qui aura lieu le 1er avril prochain à Namur.
Merci à vous, merci pour l'invitation et j'espère à bientôt.